Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte, un rendez-vous compte spécial composé comme chaque mois avec nos chroniqueurs, désormais attitrés. Ces chroniqueurs en deux mots et chroniqueuses en deux mots aussi qui aiment se retrouver, se concerter, se filer des idées, bref, s'entraider. Et cela tombe bien puisque l'entraide est justement le thème choisi en commun pour ce rendez-vous compte d'aujourd'hui. Alors pour commencer ce rendez-vous compte, comme chaque mois, nous retrouvons notre ami Michel Saufroy pareil, qui nous propose, selon son habitude, son regard à la fois lucide, bienveillant et au final plein d'espoir, comme c'est à nouveau le cas aujourd'hui à propos de cette reine déçue et donc un peu déchue dans son palais bien peu royal.
Reine, déjà plus de 50 ans que reine habite au 8e étage de sa tour HLM, quelque part en banlieue parisienne. Elle y a toujours régné en souveraine. Désormais veuve, les enfants partis vers d'autres cieux, elle vit maintenant dans un appartement devenu un peu grand pour elle toute seule. Mais elle ne veut pas le quitter. Elle y a trop de souvenirs. Reine repense souvent au bon vieux temps. Début des années 70, tous les habitants de la tour se connaissaient. Heureux d'avoir pu bénéficier d'un logement confortable, ils avaient tous à peu près le même âge. Leurs enfants fréquentaient le même groupe scolaire. Les mères bavardaient le soir après les avoir récupérés à la sortie de l'école. Des bandes de gamins de toutes origines jouaient au pied de l'immeuble sous l'œil vigilant des aînés ou des parents. On s'interpellait d'un balcon à l'autre, on se côtoyait, on partageait les joies et les soucis des voisins, on n'hésitait pas à frapper à leur porte pour demander de l'aide ou tout simplement pour le plaisir d'être ensemble. Elle en a vu défiler des locataires, des jeunes, des vieux, souvent des gens de passage, de plus en plus pressés. Un petit bonjour du bout des lèvres quand on se croise sur le palier ou devant les boîtes aux lettres, et vite on rentre chez soi. On ne se connaît pas, on n'a pas envie de se connaître. Chacun chez soi, chacun pour soi, pas besoin des autres. Règne de l'individualisme. Reine, naguère si souriante et si ouverte, est devenue méfiante et craintive. En fermant sa porte, elle a aussi fermé son cœur. Elle n'y comprend plus rien. La société a évolué. On parle des réseaux sociaux, de réseaux d'entraide. Ils permettraient d'entamer des relations avec les autres. On a des tas d'amis qu'on ne connaît même pas, mais qui seraient là pour vous secourir et vous tendre la main. Étrange, ces relations virtuelles et artificielles. Reine n'y croit pas. Elle a besoin de vrais contacts humains. Reine ne supporte plus ses voisins. Elle devient agressive. Leurs gosses mal élevés piaillent sans arrêt et ne respectent rien. Elle a changé. Elle se surprend même à les épier, à surveiller leurs allées et venues depuis son balcon, derrière son rideau ou par le judas de la porte. Son appartement, c'est son refuge, son nid douillet, son cocon. Elle n'en sort presque plus. Un beau matin, de nouveaux locataires emménagent sur son palier, juste à côté de chez elle. Un jeune couple, deux jeunes enfants, la femme est enceinte. elle les entend parler. Des étrangers. Ah, il ne manquait plus que ça. Fini sa petite vie tranquille. Les gamins, ça braille, ça salit tout. De bonnes raisons pour laisser éclater sa mauvaise humeur. Pourtant, peu à peu, Reine s'adoucit. Le voisin est aimable. Il lui tient la porte de l'ascenseur et l'aide à porter ses cabas bien lourds. C'est même lui qui a réparé la serrure défaillante de sa porte. La jeune femme est toujours souriante, les enfants bien élevés. Quelques semaines plus tard, en plein week-end, au petit matin, on sonne à sa porte. C'est son voisin, affolé. Il doit partir, conduire sa femme à la maternité. Reine pourrait peut-être accueillir les deux petits pour quelques heures. Il ne peut pas les laisser seuls. Reine n'hésite pas. Elle est flattée. Quelle marque de confiance! Elle n'a pas le temps de réfléchir. Les deux bambins sont déjà dans son appartement. Ils s'assoient dans le salon avec leurs jeux et leurs livres. Reine les observe, attendrie. Sa carapace se fend. À partir de ce jour-là, les enfants viennent chez elle. Elle se promène avec eux. Elle les aide pour les devoirs. Attachement réciproque. Elle est la grand-mère qui leur manque. Une franche amitié, sincère et réciproque, est née. Oui, on a encore besoin d'elle et elle peut être utile. Reine a retrouvé la joie de vivre et le goût du partage. On ne peut pas vivre éternellement seul, enfermé dans sa tour. Les temps ont changé, mais les valeurs humaines demeurent. Entraide, fraternité.
Merci Michel pour ce portrait de Reine pour laquelle l'entraide, notre thème de ce rendez-vous compte, est avant tout fraternité et dépassement des préjugés. Michel, on te retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique humaniste et finalement optimiste. L'entraide, notre thème d'aujourd'hui, peut aussi prendre la forme d'un partage mutuel d'expériences et de conseils, d'un regard bienveillant sur l'œuvre de l'ami, d'une entraide silencieuse mais féconde entre deux artistes, par exemple Cézanne et Pissarro, qui ont si bien fait vivre éternellement sur toile notre Val-d'Oise à la fin du XIXe siècle, comme nous le raconte Nicolas Martin, artiste lui-même et notre chroniqueur spécialisé dans l'univers de la peinture.
Ils avaient gagné, chargés de leur matériel sur le dos, la côte Saint-Denis, à une heure si matinale que la lumière n'avait pas encore jeté ses couleurs pastels sur les coteaux de Pontoise en cette fin d'octobre 1877. Le verger était là depuis des siècles, mais au premier contact, il leur avait semblé neuf, comme s'il n'avait attendu que leur regard pour s'offrir dans cette douce clarté. Cézanne, homme qui s'affairait en toute chose, avait déjà posé son chevalet usé sur le chemin terreux qui descendait étroitement vers les quelques maisons du bourg, quand Pissarro en était encore à l'observer avec une lente assurance. Pissarro avait regardé encore longtemps, en passant machinalement son pouce sur les poils de ses pinceaux afin d'en évaluer la fermeté. Il avait laissé ses yeux s'habituer au rapport, aux distances, aux masses, avait déjà évalué ce qui devait rester souple et ce qui devait être tenu. Lorsqu'il avait enfin posé la première couche, elle avait été timide. Cézanne, à l'inverse, avait déjà attaqué de son côté avec de larges aplats pour dégrossir, prêt à monter en pâte, comme il disait, persuadé que la vérité se conquérait avec énergie. « Tu avais déjà tout décidé, n'est-ce pas, Paul ?» avait dit Pissarro sans quitter le paysage des yeux. « Si je n'attaque pas, ça m'échappe !» avait répondu Cézanne. « Tout me fuit !» ajouta-t-il avec contrariété. Pissarro, qui avait déjà entendu d'autres peintres lui tenir ce discours, pensait tout autrement. Tu crois que cela fuit, répondit-il aussitôt, parce que tu veux le saisir d'un seul coup, tout embrasser dans un même souffle. Mais regarde, ici, rien ne va vite. La nature respire à un certain rythme. Et ce qui est joli, Paul, ce sont ces moments de silence entre chaque instant, entre chaque mouvement du vent dans les branches, entre chaque rayon du soleil qui vient se poser sur tout objet. Comprends-tu ? Cézanne ne répondit pas. Cet homme trapu, le dos courbé sur la toile, observa celle de Pissarro. Il y vit que le dessin n'y avait pas été tracé, mais avait émergé lentement, par superposition. Il avait remarqué que l'empattement n'était pas structure, mais révélateur, que la forme naissait de la couleur et n'était pas tracée par elle. Dans cette atmosphère studieuse, toute la matinée glissa sans effort, signe d'une session productive. Pissarro avait donc travaillé par plan, ayant déjà anticipé les changements de lumière qui surviendraient plus tard. Il avait pensé son tableau comme un organisme qui aurait dû rester cohérent malgré les variations du jour. Cézanne, lui, avait figé l'instant premier du matin. Il avait gratté des zones entières, avait épaissi ailleurs, cherchant une solidité presque douloureuse. Il avait voulu que chaque arbre se tînt comme les poutres d'une vaste architecture, que la terre eût le poids de la boue et l'herbe humide celui de la rosée. Chez lui, les feuillages s'entrecroisaient avec force et dynamisme. L'ensemble géométrique écrasait la perspective et sa peinture qui, chargée par chaque application en aplat, conférait une belle générosité à la toile et à l'image de son auteur. Inspiré par la fraîcheur de l'air et des senteurs qui émanaient des feuilles au sol et de l'humus en décomposition sur les troncs cet automne couleur d'ocre, Pissarro à plusieurs reprises avait interrompu son propre travail pour regarder la toile de Cézanne. Il n'avait pas parlé de style, non plus de méthode. « Tu as peut-être posé trop sombre trop tôt », avait-il dit. « Si tu charges dès le début, tu n'as plus de marche pour respirer. »« Mais je veux que ça tienne », avait répondu Cézanne avec irritation. « Justement, pour que cela tienne, il faut d'abord que cela vive. Il faut donner de l'espace aux choses, latéralement, mais aussi leur permettre une profondeur, par plan. »« Une profondeur ?» Cézanne comprit le sens de ces mots. Quelques années plus tard, il allégeait sa palette, l'éclaircissant pour donner vie à des toiles dans son cycle sur la montagne Sainte-Victoire, d'une construction et d'un éclat remarquables, dans lesquelles la couleur joue son rôle de soutien plutôt que de domination. Alors que l'heure du déjeuner sonnait à l'église du bourg de Horchard et appelait les artistes à achever leur labeur, la lumière du matin déjà avait changé. Pissarro, qui ramassait péniblement son matériel, avait prévu ce basculement, et ce, depuis l'installation. Cézanne, essuyant sur un vieux linge un tube maculé d'huile, lui qui avait dû reprendre ses grandes masses sur la toile toute la matinée, confiait, en se relevant qu'il lui était apparu clair, ce jour, que le tableau n'était peut-être pas un instant figé, mais devait plutôt exprimer une durée, un futur antérieur. Il aurait fallu que certaines choses aient été pensées dès le commencement pour que l'ensemble pût advenir sans rupture et sans douleur, réalisait-il bouleversé. Cette révélation avait été lente, mais décisive. Au soir, deux toiles étaient quasi achevées, retouchées un peu moins dans le frais, à l'abri, dans l'atelier de Pissarro. Elles avaient partagé le même motif, le même verger, mais non la même respiration. Afin de les contempler, ils les installèrent l'une à côté de l'autre, chacune sur leur chevalet. Celle de Pissarro, d'apparence plus délicate et fragile, avait laissé circuler l'air et la lumière. Celle de Cézanne avait contenu une tension plus dense, plus grave. Pourtant, Cézanne n'avait plus cherché à vaincre le paysage cette fois-ci. Il avait commencé à l'organiser. Ces séances quotidiennes devaient laisser une trace durable. Ce partage mutuel d'expériences et de conseils fut en effet capital dans l'œuvre des deux artistes. Cézanne ne devait jamais oublier cette leçon qui lui apprit à bâtir le monde par la couleur, à accepter le temps et à reconnaître que cette conquête qu'il avait crue solitaire un temps avait commencé sur ses coteaux dans l'entraide silencieuse et bienveillante d'un autre regard, celui d'un ami. À bientôt, dans Argument.
Nous sommes toujours bien sur IDFM et nous marquons une première pause musicale en accord avec notre thème d'aujourd'hui, une chanson de Françoise Hardy qui date de 1965 et qui a pour titre « L'amitié » et qui est si justement interprétée par notre ami Thierry Leclerc, comédien, compositeur et chanteur.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Pourra repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste une amie qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton bois.
Si pour Thierry l'entraide est avant tout amitié, comme il vient de nous le chanter, Michel et Nicolas ont envisagé l'entraide du seul côté humain. Gérard Poètre, célèbre auteur des non moins célèbres chroniques de son chat Moritz et de Dialogue avec un arbre, tel un Jean de La Fontaine contemporain, questionne chez les arbres, les animaux et les humains les notions d'entraide, de solidarité, mais aussi d'égoïsme dont certaines formes peuvent être émancipatrices, n'est-ce pas Gérard ?
Absolument. Donc bizarrement, en entendant le mot entraide, ce n'est pas l'homme, mais l'arbre qui m'est venu à l'esprit. Dans son best-seller « La vie secrète des arbres », Peter Wohlleben développe l'idée de la communication entre les arbres, une communication qui va jusqu'à l'existence de liens d'entraide par l'intermédiaire des champignons, des racines, voire même des feuillages. En opposition, m'est revenue à l'esprit cette citation de Hobbes, « L'homme est un loup pour l'homme ». En parlant de loup, est-ce que dans la gent animale, il existe aussi des manifestations d'entraide ? Un des exemples les plus connus est celui des fourmis. Le dernier en date, lors d'une expédition aquatique de la colonie fourmilière sur une feuille, une fourmi chute et se trouve proche de la noyade. Alors, ses congénères s'arrêtent, puis réussissent à faire marche arrière et parviennent à la sauver. Donc, les animaux s'entraident. Mais est-ce que ces situations ne conduisent pas à une forme d'idéalisation de la nature et de déconsidération de l'homme ? Cet homme qui serait darwinien, livré à la loi du plus fort, coupable de son individualisme, doit-on se rallier à la thèse de la guerre pour l'accès à la lumière, à l'eau et à l'air des espèces naturelles et la transférer à l'homme ? Des recherches récentes montrent qu'il faut relativiser ces points de vue. Il y a bien des liens entre les arbres, mais leurs bienfaits ne sont pas si clairs et ne témoignent pas spécifiquement d'entraide. En ce qui concerne les fourmis, certaines cachent bien leur jeu, car des observations sur les colonies au travail montrent qu'elles ne seraient véritablement qu'un tiers à travailler. Il y aurait donc des tirouflants chez les animaux. Il existerait aussi une forme d'individualisme dans la nature. Cet individualisme que le sociologue Durkheim sépare en deux. Un individualisme de l'émancipation et un individualisme de l'égoïsme. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. L'individualisme émancipateur est conciliable avec l'entraide. L'émancipation ne peut même se concevoir sans l'existence et le développement du lien social. Il y a donc bien une dualité de la nature humaine. D'ailleurs, Hobbes avait ajouté « L'homme est un loup pour l'homme s'il reste à l'état de nature. Mais si l'homme est capable de faire société, s'il parvient à éviter la loi de la jungle, alors l'entraide trouve toute sa place. Pour ce qui est des relations entre la nature et nous, elle repose sur le même principe de réciprocité. La nature ne peut se régénérer seule sans notre aide. Son réensauvagement est une utopie, et d'ailleurs n'est pas souhaitable. Inversement, notre vie sur Terre ne peut pas se reproduire sans le respect et l'aide de la nature. Il ne s'agit pas de retrouver le monde ancien, mais il est indispensable de s'entraider pour un futur vivable.
Voilà, merci Gérard pour cette chronique très philosophique. Et j'ajouterais que si l'homme était vraiment un loup pour l'homme, ben, il y aurait peut-être moins de massacres finalement. Nous sommes toujours bien sur IDFM et l'on retrouve dans ce rendez-vous compte spécial chronique consacré au thème de l'entraide, celle qui aime faire des autopsies, boire du Pepsi et dire des inepties, Hélène Souau, psychothérapeute et psychanalyste, qui nous présente l'œil du psy. Alors, où t'ont donc entraîné tes réflexions sur la notion d'entraide, Hélène ?
C'est d'abord du côté de la politique et de l'économie que je me suis promenée. On a souvent opposé la culture d'État-providence des pays du nord de l'Europe au capitalisme débridé des États-Unis. Les pays nordiques mettent en avant la coopération plutôt que la compétition. Leur système scolaire bienveillant est cité en exemple. La France regarde dans les deux directions, oscillant entre le fantasme de l'efficacité américaine et celui de l'humanité coopérative d'un pays comme le Danemark. Personnellement, j'adore les projets collaboratifs. À toute petite échelle, notre émission des chroniques mensuelles en est un exemple. On a nos apéros partagés pour fixer les thématiques, le temps de parole de chacun, quelques règles, beaucoup de liberté et d'initiative personnelle. Un monsieur loyal bien aimé pour nous passer la parole et assurer le travail technique. Je trouve qu'on s'en sort pas mal côté cohésion et entraide.
Alors, mais c'est vrai, l'entraide et la collaboration ne sont pas un vain mot sur IDFM, mais pour ta chronique, l'œil du psy, je pensais que tu nous parlerais d'entraide en psychologie.
L'entraide fait en effet partie du sel de l'existence. L'homme est un animal social et l'existence sans lien interpersonnel n'aurait aucun sens. Mais j'insiste sur le préfixe du mot « entre », car si on l'ampute pour ne garder que l'aide, on arrive en terrain miné. Même sans être très calé en psychologie, on a souvent entendu parler du triangle de Karkman ou triangle dramatique, composé de trois pôles, sauveur, victime, bourreau. Cette schématisation des relations interpersonnelles remonte aux années 60 dans le sillage de l'analyse transactionnelle, une école de psychothérapie travaillant avant tout sur le lien entre les individus.
C'est bien abstrait tout ça, tu n'aurais pas un exemple ?
Si. Une de mes patientes a pris la tête d'un institut médico-social qui dysfonctionnait complètement. L'ancien directeur était à couteau tiré avec ses équipes et en reprenant ce poste, après la démission de l'ancien chef, elle a fait figure de sauveuse, premier pôle du triangle. Mais les nombreux problèmes de dysfonctionnement de l'équipe persistent. Ma patiente hausse le ton pour rappeler les missions de chacun et conformément à son rôle de cadre, elle cadre. Pour certaines personnes, elle apparaît alors comme un nouveau bourreau. Deuxième pôle du triangle. Des groupes se forment pour lutter contre son autorité jugée abusive. On monte un groupe WhatsApp dont le principal objectif est de déverser des horreurs sur son compte. Les conversations s'arrêtent quand elle rentre dans le réfectoire. La voici victime, troisième pôle du triangle. Elle a parcouru les trois pôles en quelques mois.
Ah oui, alors ça, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Mais comment peut-on sortir d'un tel champ de bataille ?
Le mieux est de ne pas y rentrer. C'est pour ça que l'aide à sens unique est très dangereuse. La posture de victime ayant besoin d'aide n'est pas confortable. Une relation sans réciprocité finit par se tourner vers celui qui croyait bien faire en secourant l'autre. En fait, quelle que soit notre position dans le triangle dramatique, elle est mauvaise. On y entre le plus souvent en tant que sauveur, la position la plus valorisante. Mais les rôles sont tournants, comme on l'a vu dans mon exemple. Et le rôle de bourreau et de victime sont toujours en embuscade. Penser pouvoir résoudre les problèmes des autres est un leurre. Chacun est responsable de lui-même. C'est ça le secret de la thérapie.
Le rôle du thérapeute est pourtant bien d'aider son patient, non ?
Non, le rôle du thérapeute est d'accompagner le patient qui souhaite s'aider lui-même. Le thérapeute offre, ou vend plus exactement, un lieu, un cadre, une écoute, un temps centré sur le patient, mais c'est le patient lui-même qui fait le travail.
On a quand même bien le droit de donner un petit coup de main, non ? Un ami de temps en temps ?
Bah oui, merci de m'avoir transporté jusqu'au studio. Et au fait, en sortant, c'est à mon tour de payer le café.
Ah, une bonne nouvelle. Voilà, merci Hélène pour nous avoir expliqué si clairement que les rôles de sauveur, bourreau et ou victime sont parfois interchangeables et que qui trop entraide, mal soutient.
Oh, bien joué.
Voilà, et le monsieur loyal bien-aimé, je pense que c'est moi, qui passe la parole dans cette émission, aura donc le plaisir de donner à nouveau le mois prochain libre cours à ton œil du psy.
Avec plaisir.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique qui a pour thème ce mois-ci l'entraide. Et nous avons le plaisir de retrouver, comme chaque mois désormais, la voix des jeunes, Victoria, étudiante en master de littérature. Victoria qui entend affirmer que, contrairement aux idées reçues, l'entraide est très présente chez les jeunes.
Oui, effectivement, parce que la première question qui m'est venue à l'esprit en voyant la thématique de ce mois-ci, c'est « Les jeunes s'entraînent pour quelles raisons ?» Après tout, les études sont une réussite individuelle. Et plus celles-ci sont sélectives, moins il y a d'entraide en théorie. Cependant, je constate une chose. Avant de rentrer en prépa littéraire, on m'avait dit que c'était un milieu impitoyable, où chacun se bat pour soi-même parce que vous comprenez, l'ENS, l'école des chartes, Sciences Po, on vise les meilleures écoles de France. Et ben aujourd'hui, je rigole bien. La grande majorité de mes amis sont des gens que j'ai rencontrés en prépa. Pour la plupart d'entre nous, nous ne savions même pas quoi faire avec nos études. Pourquoi se replier sur soi-même alors? C'est la même chose pour les scientifiques d'ailleurs. Ils sont quasiment tous sûrs de rentrer en école d'ingénieur. Seulement, l'accès aux écoles les plus prestigieuses est réservé aux meilleurs élèves de la classe. Et puisque le travail est déjà assez dur comme ça, il n'y a pas besoin de se faire la guerre entre élèves en plus. Vous l'aurez compris, chez les jeunes, l'entraide vient assez naturellement, puisque le monde des études est déjà assez impitoyable comme ça. Et puis, vous voyez ce que disent les infos, il y a une pénurie de main-d'œuvre un peu partout en France. Donc, à quoi bon se faire la guerre? Et surtout, avant d'aider les autres, on a souvent du mal à s'aider soi-même, à se trouver soi-même. Aujourd'hui, dans n'importe quel groupe de classe, que ce soit sur WhatsApp, sur Snapchat ou sur Instagram, il y a des élèves qui partagent leurs cours. Je travaille dans un fast-food et il y a régulièrement des personnes qui pistonnent leurs amis pour qu'eux aussi puissent gagner un petit peu d'argent pendant leurs études. D'une certaine manière, l'entraide est peut-être encore moins indispensable qu'il y a quelques années, pour se loger notamment. Il faut être en couple ou en colocation, sinon c'est très difficile de trouver. Il y a une autre question que je me pose. Est-ce qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, on peut dire que les jeunes s'entraînent plus qu'avant? Ou bien c'est l'inverse. On cherche du soutien auprès de personnes qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. D'un côté, c'est une forme d'entraide. De l'autre, c'est ce qui isole de plus en plus les jeunes dans leur chambre. L'entraide virtuelle remplace l'entraide réelle. Mais je pense que la plupart des jeunes préfèrent largement les relations réelles à celles d'Internet, car parler à quelqu'un sur son téléphone n'est jamais aussi bien qu'une vraie discussion en tête-à-tête.
Voilà, merci Victoria pour cette nouvelle leçon de sagesse et de bon sens. On te retrouve le mois prochain pour nous éclairer encore une fois sur les comportements de ces êtres curieux, les jeunes.
Merci.
On retrouve maintenant Marine Gauvin, notre illustratrice freelance, qui nous fait savoir avec sa détermination et sa sensibilité habituelle ce que la notion d'entraide représente sous sa plume, bien sûr.
Sur Terre, l'entraide et la compétition coexistent. Mais malheureusement, un certain nombre d'humains a simplement retenu la compétition pour justifier le monde violent et destructeur dans lequel nous vivons. Pour mieux servir leurs intérêts, ils nous ont balancé à toutes les sauces que seul le plus fort gagnait. On nous a servi le capitalisme, les dictatures, les totalitarismes sur un plateau d'argent. Prenez-en une lampée, c'est bon pour la santé. Alors oui, à court terme, la compétition peut être la plus forte. À long terme, non. Et c'est bien en cela que l'entraide est beaucoup plus puissante que la compétition. Elle est le mortier qui permet de maintenir toutes les strates du vivant entre elles, de permettre la porosité des relations, la richesse des relations, des synergies, des symbioses. Sans entraide, aucun être vivant n'aurait pu tout simplement vivre. Sur notre planète vivante, la compétition est régulée car trop énergivore. Or, l'énergie sur Terre est extrêmement précieuse. Il ne faut pas la dépenser sans compter, car le temps de récupération est beaucoup trop lent et l'être vivant peut se retrouver fragilisé pour une plus ou moins longue période. Nous sommes aussi réceptacles de vie qui nous permettent de nous tenir debout, rien que dans notre corps. Grâce aux bactéries, à notre flore intestinale, nous pouvons être en bonne santé. Grâce aux différents éléments que nous avalons, nous permettons à des milliers d'êtres minuscules de vivre à l'intérieur de nous et eux nous permettent de vivre. C'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. L'entraide est pourtant une chose que nous entretenons au quotidien sans réfléchir. Elle est plus fructueuse que la compétition et la violence. Elle nous apporte un sentiment de bonheur, de contentement, d'utilité et d'appartenance. En 2015-2016, je suis partie effectuer un volontariat écologique franco-allemand dans le cadre du service civique. Je travaillais dans deux structures, une ferme pédagogique et une école Montessori. Ma tutrice, qui était la gérante de la ferme, m'a beaucoup aidée à mon arrivée pour les démarches administratives et l'équipe a toujours été très bienveillante envers moi, envers cette Française qui voulait manier la langue de Goethe comme personne et qui en redemandait sans cesse. À l'inverse, mon arrivée n'avait pas du tout été préparée à l'école Montessori. Je ne me suis pas sentie accueillie, j'ai été larguée dans ce labyrinthe sans mode d'emploi et j'ai eu beaucoup de difficultés à m'intégrer. Résultat des courses, je suis restée jusqu'au bout de mon contrat à la ferme alors que je suis partie en cours d'année de l'école Montessori. Parce que dans une structure, je m'étais sentie épaulée, aidée, intégrée, tandis que dans l'autre, je me suis sentie insignifiante et inutile, voire carrément inexistante. Je me sentais déprimée, souvent en colère, malmenée par l'équipe pédagogique qui ne m'aidait pas. Sans entraide et sans cadre rassurant, on se sent fragile. Et c'est là que la violence et la domination peuvent s'engouffrer dans la brèche et nous prendre de plein fouet. Notre rapport aux autres, humains et non humains, est aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde un rapport de dominant et de force brutale. Nous nous sommes sentis supérieurs à toute autre forme de vie sur Terre et ne les voyons plus que comme des ressources, de l'argent qui rentre et qui sort, et non plus comme des êtres vivants à part entière. Nous perdons la partie et pourtant nous continuons, toujours dans cette optique du plus haut, plus fort. Pensez à la fable de la fontaine, du chêne et du roseau. Pensez au lièvre et à la tortue. On nous a prévenus pourtant, et la Terre nous prévient sans cesse, car règne trop plein de violence et tellement néfaste que c'est voué à s'effondrer. Dans mon art, j'essaye justement de réajuster le tir et de poser sur les autres vivants un regard plus égal. De mettre en avant les liens, les points de rencontre, les dialogues qui, sans parole, se font pourtant, existent. Des illustrations où je décentre le regard de l'humain à l'autre, où notre espèce perd sa place de prédateur ultime pour intégrer une plus juste place. Une place dans le vivant, prédateur et proie, entraide et compétition, mais surtout, surtout, beaucoup d'entraide. Allez, une petite cuillère pour celle-ci. Ah, ta meilleure mine, dis donc! Viens, cultivons-la dans notre potager. Ça peut que nous faire du bien.
Merci Marine, tu as bien raison. Il faut cultiver son jardin et sa petite communauté d'entraide, comme le disait d'ailleurs Voltaire dans Candide. Marine, on te retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique. Tu nous rappelles comment on peut avoir connaissance de tes travaux?
Sur mon site www.marinegauvin.com.
Au mois prochain, Marine. Ainsi se termine notre rendez-vous compte spécial chronique consacré ce mois-ci au thème de l'entraide. Une émission à retrouver en podcast, bien sûr, sur le site d'IDFM avec toutes les références de nos chroniqueurs. Merci Michel, Nicolas, Thierry, Gérard, Hélène, Marine et Victoria. On vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Et quant à moi, Didier, je donne rendez-vous à tous les auditeurs la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte, sur EDFM évidemment. Et en attendant, je vous retrouve aussi dimanche matin dans la matinale de Mehdi pour ma chronique Nec plus Ultra, consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.